Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, émission enregistrée dans le Media Lab du WIP. Alors pour rappel, il y a 2 semaines, nous avons essayé de nous faire l'écho de la COP26 en imaginant comment serait 2100. Et franchement,
ça fait peur.
Donc à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire?
On va agir.
Ah bah c'est super, je compte sur vous pour
finir toutes tes phrases.
Allez, 1, 2, 3,
vive à l'Algérie.
Mais non, 1, 2, 3, c'est parti. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, l'équipe est en pleine forme. Et justement, je vais faire un petit tour de table pour prendre la température. Comment vas-tu, Alixia?
Ça va. Ouais, et toi, ça va bien?
Ça va super. Alors, de quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui?
D'écologie.
Ah, t'as déjà oublié?
Non,
cool.
Non, pas du tout.
Tu vas faire une petite lecture, c'est ça?
Ouais.
Voilà, ok. Et bah, tu sais quoi, je vais la faire à ta place. Non, je rigole, c'est pas
vrai. Bah, tu lui as dit de quoi on va parler, mais elle va lire.
Oui, c'est vrai, bah, elle aurait pu me dire. Mais on s'arrête, allez, on continue cette émission. Ça fait 1 minute, c'est déjà le bordel. Alors, nous accueillons également notre cher Raphaël.
Oui, je suis là, merci de m'accueillir.
Et toi, de quoi tu vas parler?
Eh ben, d'écologie.
Super.
Non mais voilà, avec une chronique où je vais vous présenter un documentaire indispensable sur le climat et puis l'inviter aussi dans quelques minutes où on parlera aussi climat.
Effectivement, et on remercie alors Analou qui est derrière son micro, Pierre aussi derrière son micro et Alain qui attend pour prendre la place aussi en fin d'émission. Nous allons commencer tout de suite par les clés de lecture de Raphaël. Pourquoi j'ai mangé mon père? Attends, c'est pas le film avec les singes et Jamel Debbouze, tout ça? Non, parce que qu'est-ce que ça vient faire dans cette chronique, Raphaël?
Alors, doit y avoir un problème dans tes fiches. Le docu que je vais présenter s'appelle « L'homme a mangé la terre ». C'est pas tout à fait ça.
Okay.
Mais on n'est pas à la préhistoire d'ailleurs, mais bien aujourd'hui en pleine anthropocène dans ce docu.
Bon, alors, Raphaël, tu sais très bien, moi, l'anthropocène, tu sais, je sais ce que c'est, je pense que ça vient de s'entendre. peut-être pas nos auditeurs ni nos auditrices. Alors, est-ce que tu peux nous donner une petite définition?
Ça va peut-être te servir aussi. Hein. Il s'agit de rien de moins qu'une nouvelle ère géologique, l'âge des humains. Les scientifiques qui observent l'évolution de la biosphère considèrent que l'activité humaine a ainsi désormais plus d'impact que les forces géophysiques. L'Holocène était la précédente ère géologique qui avait commencé il y a 12 000 ans à la fin d'une ère glaciaire. Le début de l'Anthropocène est daté dans les années 50. Ça marque la montée en flèche de la pollution atmosphérique due aux humains.
Ok, j'aurais dit exactement la même chose. Donc l'Anthropocène, c'est donc le sujet au cœur du documentaire que tu nous conseilles de regarder.
Exactement. D'ailleurs, si le film s'appelle « L'homme a mangé la Terre », voilà, pour que tu notes bien sûr tes fiches. Le livre dont il s'est inspiré s'intitule pour sa part « L'événement anthropocène », signé par 2 historiens du CNRS. L'ambition à la fois du livre et du film, documentaire donc, est de décaler le regard sur la crise climatique que nous traversons, de lui donner une perspective historique. En 1h30, on parcourt ainsi plus de 2 siècles, de la révolution industrielle à la fin du 19e jusqu'au Big Data aujourd'hui.
Et alors, qu'apprend-on de ce grand cours d'histoire télévisuelle?
Eh bien, on se rend compte que la façon dont les sociétés occidentales et l'économie mondiale considèrent la gestion de l'environnement planétaire a en réalité très peu changé. Dès la révolution industrielle, la conscience de la finitude de la Terre et de ses ressources est là. Mais à chaque fois, la solution retenue n'est pas l'écologie, mais la course au progrès technologique. Avec le charbon, puis le pétrole, puis le nucléaire, puis le plastique et la myriade d'inventions dans l'industrie chimique, le tout dans une spirale qui entremêle allègrement volonté de puissance, enrichissement personnel et guerre mondiale. Alors pour prendre un petit exemple, voici un extrait du film qui raconte comment une alliance d'industriels américains de la voiture et du pétrole, appauvris par la crise de 1929, ont signé l'arrêt de mort du réseau de tramway aux États-Unis.
En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramway électrique pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché. L'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur. Un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires.
Ah, ça fait froid dans le dos. Bon, ça pas un peu trop déprimant ce truc là, Raphaël ?
Alors ok, on peut pas appeler ça un feel good movie, mais c'est un film nécessaire pour comprendre la crise climatique, ses raisons profondes. Ça fait réfléchir à la crédibilité de ceux qui nous promettent des lendemains qui chantent à base de croissance verte, d'économie décarbonée. Le tout est très bien raconté avec la superbe voix de Jacques Bonafé, accompagnée de passionnantes images d'archives du monde entier.
Bon alors ça s'appelle « L'homme a mangé la terre », tu vois j'ai retenu. Ça a été réalisé par Jean-Robert Vialet et c'est disponible gratuitement sur Arte TV.
Et tu as tout dit.
Et voilà. Alors on continue la suite de cette émission avec notre très chère Alexia qui va nous parler d'écologie, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Eh bien écoute, la parole est à toi.
D'accord. Bah, en fait, j'ai lu dans Mediapart une sorte de plaidoyer écologique qui a été publié le 13 septembre 2021 par Marcel Nuss. Donc, je me suis renseignée un peu sur lui. Aucun rapport avec l'écologie, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la sexualité des personnes handicapées. Et, parce que lui-même est atteint de handicap et je vous invite à vous renseigner sur ce type. Et donc du coup, il a publié un plaidoyer écologique dans Mediapart que je vais vous lire. Tous les feux sont au rouge, le GIEC tire la sonnette d'alarme, pourtant nos politiques ne semblent pas s'affoler plus que ça. Je pleure la terre qui meurt, je plains les cons qui la tuent. Spéculation et individualisme, la roulette russe n'est jamais la même pour tous. Clamez, pauvres gens, le capital vous le rendra. Cet égoïsme cynique persuadé que ça n'arrivera qu'aux autres ou qui pense qu'après moi le déluge. Consommation et confort jusqu'à l'absurde. Que reste-t-il d'humain à tant d'humain ? Je pleure la terre qui meurt. Le bon sens est en friche et la solidarité en berne. Touche pas à ma liberté de crever, de me croire libre. Juste en refusant de me priver de mon aisance, à chacun son carburant et les autres n'ont qu'à commencer. La liberté est corrompue, la liberté est frelatée. On en fait n'importe quoi pour ne pas ouvrir les yeux, pour ne pas frustrer un ego qui va à valot. La terre meurt et je demeure, impuissant et triste, d'être un pollueur, conscient et contrit, fruit d'une culture dératée, pervertie le progrès capitaliste.
Wow. Alors je disais que ça faisait froid dans le dos tout à l'heure ton documentaire, Raphaël. Alexia, c'est une très belle lecture, en tout cas. Tu l'as très bien interprété. Bravo à toi.
Merci.
Voilà.
Si nos auditeurs ont envie de se tirer une balle, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils restent avec nous. On va essayer de vous donner envie de changer les choses et d'être plus positif sur la suite.
Clairement. On a parlé en tout début, en introduction, on a dit qu'on allait agir, justement, on peut agir. On va rester positif, ok ? Vous êtes chaud pour être positif ?
Ouais !
C'était génial.
Spontanéité.
Il y a de la spontanéité, ça fait plaisir. Alors justement, on a quelqu'un qui a le sourire autour de la table et c'est génial. Justement, il est venu pour nous parler un petit peu d'action, de ce qu'on peut faire justement pour changer les choses. On accueille notre invité du jour.
Alors, notre invité du jour, c'est Frédéric Burnel, membre actif du collectif Unis pour le Climat. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci.
Alors, avant de te présenter plus en détail et le collectif, je me permets un petit retour en arrière. À la fin de l'été 2018, le ministre de la Transition écologique solidaire, Nicolas Hulot, annonce sa démission en direct sur France Inter. Il n'en peut plus des compromis de la politique des petits pas. Cet événement politique suscite beaucoup de déceptions chez les écologistes de tous bords et aboutit notamment à la mise en place d'une première grande marche pour le climat en septembre de cette même année. De nombreuses autres suivront, renforcées par la mobilisation des lycéens et étudiants. À Caen, le collectif Unis pour le climat s'est monté dans le cadre de cette dynamique. Aujourd'hui encore, les citoyens qu'ils composent relaient les appels à se mobiliser nationaux, font le lien avec les associations et les syndicats également mobilisés sur le sujet. Donc je l'ai dit, Frédéric, tu es l'un des membres de ce collectif Unis pour le climat. Merci d'être là aujourd'hui avec nous dans Bonjour Turbine. J'ai résumé de manière très condensée cette mobilisation citoyenne. Mais pour commencer, j'aimerais avoir plus un ressenti personnel de ta part sur ces 3 ans de militantisme écolo, alors qui sont peut-être un peu plus longs pour toi, tu vas nous le dire. Mais qu'est-ce qui domine en tout cas dans cette mobilisation, dans ces marches et toutes les actions d'Unis pour le climat ? Est-ce que c'est la colère, le découragement, l'espoir ?
Alors en effet, ça fait un petit moment que je milite sur le sujet, hein. Ça fait pas 3 ans, moi ça fait au moins depuis 15-16 ans, et encore ça c'est sur l'écologie, même sur d'autres sujets, ça fait un petit moment que je suis militant. La colère, l'espoir, je pense qu'on a tous un peu un mélange de tout ça. Dès qu'on pense à, on pense au climat, à l'écologie, on a vite l'émission que vous avez fait il y a 2 semaines, où on peut voir surtout les mauvais aspects, quoi. Donc forcément, mais comment dire, il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui dépend pas de nous. Voilà, à un moment donné, il faut essayer de voir. Il y a un philosophe qui parlait d'optimisme, de pessimisme dans l'intelligence, qu'on essaye de faire une analyse de ce qui se passe, etc. Puis on voit que les mauvais côtés. Et il y a l'optimisme de la volonté, c'est de voir les leviers sur lesquels on peut agir pour changer les choses, quoi. Imaginez que vous êtes atteint d'un cancer, etc. On vous dit que c'est incurable. Forcément, si on voit pessimisme de l'intelligence, on se dit bah c'est mal parti, mais il y a des gens comme ça qui disent bah oui, bah qu'est-ce que je peux faire pour changer mon alimentation, quel oncologue spécialiste du cancer je vais aller voir, etc. Ils essaient de mettre toutes les chances de leur côté, leur famille le soutient, et on voit que des fois il y a des marges de manœuvre, des choses qui fait que des fois on arrive à prolonger la vie ou alors même à en sortir. Donc voilà, il faut jamais baisser les bras, voilà.
Donc plutôt optimisme de la volonté de ton côté.
Oui, bah toujours un mélange. Il faut toujours le mélange. Il faut toujours le mélange.
Et donc tu disais, ça fait une quinzaine d'années que tu milites dans différents contextes, différents combats. Sur la lutte contre le changement climatique, les différentes mobilisations, en quoi c'est différent comme mobilisation citoyenne?
Alors si on s'intéresse un peu, moi j'ai déjà en 2009, on faisait déjà des mobilisations à Caen, hein, sur la COP de, je ne sais plus quel le numéro que c'était, c'était à Copenhague à l'époque. Et donc il y avait déjà des collectifs citoyens comme ça qui avaient fait des... Mais c'est la première fois qu'on a une vraie marche, un vrai mouvement d'individus par en bas avec des masses de gens, hein. Il y a eu en France des manifestations à 50 000, 100 000 personnes en France, donc c'est vraiment énorme, avec des mouvements lycéens. Et même, c'est des choses au niveau mondial. Il faut savoir qu'il y a eu des marches mondiales où quasiment plusieurs endroits dans le monde où il y avait des millions de personnes dans la rue en même temps, quoi. Donc c'est des moments uniques. Le seul moment où historiquement il y a eu des choses comme ça, c'était au moment de la guerre en Irak. Je ne sais pas si vous savez, c'était en 2003, si vous vous souvenez. Il y avait eu je ne sais plus combien de millions de personnes en même temps dans la rue, dans la même date. Donc c'est vraiment un peu, même pour les anciens écologistes, hein, qui ont mobilisé sur le nucléaire, etc., c'est les premières fois où là, on a vraiment des manifestations massives. Il n'y en a pas sur des sujets comme ça, sur l'agriculture, il y a les mobilisations sur les EGM, mais aussi massives, avec aussi des formes de radicalité, etc. C'est pas courant. Et puis, ça réunit pas mal de gens différents aussi, donc ça, c'est intéressant. On fait un lien avec les syndicats, d'autres petites associations. Je pourrais en parler un peu plus tard après, un peu plus longuement.
Alors, ça fait un petit peu écho aussi à. On a eu, là, il y a 2 semaines, Rebecca Armstrong qui était présente à l'occasion de la COP25, qui justement nous disait que voilà, d'un côté, la politique, on voyait que ça avançait pas, mais le fait de tous se retrouver ensemble, unis pour un même combat, justement, ça fortifiait un petit peu les espoirs. Donc, c'est plutôt un petit peu ce que tu es en train de nous dire.
Déjà, on a réussi à mettre le sujet sur la table, hein. Ça devient une préoccupation de la population, ces sujets-là. Donc, quand il y avait des sondages, c'était vraiment la question de l'emploi, le social, etc., qui était souvent mis en avant, voire des fois de thèmes dont j'ai pas envie de parler ce soir. Mais et là, ces thématiques-là sont mises en avant, sont dans la place publique. Même les élus sont obligés d'en prendre compte. Même au niveau de l'Union européenne, ils ont dû revoir là dernièrement leurs objectifs de -55% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, c'est faut être clair, hein, là par rapport aux enjeux climatiques, les différents Il y a eu un humoriste sur France Inter qui avait dit qu'il n'y avait que le Bhoutan qui avait respecté ses engagements de la dernière COP. Donc c'est vrai que là, les objectifs, ils ne répondent pas aux enjeux, quoi. On parle de certains veulent faire la leçon à d'autres, mais même la France, elle a été jugée pour son inaction climatique en disant qu'elle ne respecte pas ses propres objectifs sur le climat, quoi, ce qu'elle a signé au niveau des accords de Paris.
Ouais, alors justement, on va revenir tout à l'heure après avec toi sur comment on peut justement agir et justement on va discuter. Peut-être avant ça, on va redonner la parole à Pierre justement qui va nous proposer un petit interlude musical, toujours en lien avec le sujet évidemment. On veut du green. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. Elle cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse.
Je pense que beaucoup d'entre vous ont reconnu le groupe, donc Trio, avec la chanson donc Greenwashing. Donc je trouve qu'elle illustre vachement bien les dérives de la communication où certaines sociétés font du développement durable afin de redorer leur image, mais en fait sans réelle valeur écologique derrière toute cette poudre aux yeux. Donc greenwashing, pour une petite définition, le greenwashing, donc éco-blanchiment en français, donc c'est une méthode de marketing consistant en fait à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. Le but du greenwashing étant de se donner une image éco-responsable assez éloignée de la réalité. La pratique du greenwashing est trompeuse et peut être assimilée à de la publicité mensongère. Petit exemple de greenwashing. H&M, célèbre marque de vêtements, sort une gamme de vêtements fabriqués à partir de tissus recyclés, misant ainsi sur la mode croissante du zéro déchet. Belle démarche pour une multinationale, mais petit hic tout de même. Les matériaux recyclés ne représentaient parfois qu'une partie infime de vêtements, 20%. Et vraiment, ce terme greenwashing est souvent utilisé par des ONG pour stigmatiser les entreprises qui tentent d'afficher des préoccupations environnementales qu'elles sont loin en fait d'avoir dans leurs pratiques. Donc ce titre issu de l'album L'a dit l'a fait, Greenwashing dénonce l'absurdité de la société de surconsommation, de l'influence du marketing sur nos modes de vie. Et Trio, donc, quand ils ont fait la promotion de ce titre, pendant une interview, ils ont dit ce passage que je vais vous lire. On ne pourra pas lutter efficacement contre le réchauffement climatique et espérer stabiliser la hausse des températures sur la planète en continuant à manger impunément des mandarines toute l'année, en achetant le dernier modèle d'ordi, mobile, tablette, TV sur écran, écran plat, magnifique, tu vois, et en voyageant aux quatre coins de la planète en même temps. Bref, pour un monde vraiment durable, il va nous falloir savoir renoncer à la tentation du greenwashing et de l'éco-marketing qui nous promettent de vers lendemain, tout en nous laissant croire qu'on peut continuer à consommer tout autant, sinon plus. Et ils ont terminé par « demander pardon ne suffit pas ».
Merci beaucoup Pierre pour ce petit interlude musical, donc Trio très, très engagé, et je crois qu'ils ont tout dit, hein. Je sais pas ce que t'en penses Raphaël, mais... C'est très parlant.
Très parlant. Là ça me faisait penser à sortez les poubelles, les ordures télévisuelles. On est voilà, dans la même idée. À un moment donné, voilà, faut savoir s'extraire un peu du marketing, de la pub et retourner aux vraies valeurs des choses.
Exactement. Et comme il le dit si bien, demander pardon ne suffit pas. Il faut agir. Il faut agir avec le sourire. Alors du coup, justement, on retrouve notre optimiste de la volonté pour parler des revendications du collectif Unis pour le climat, ses modes d'action et bien sûr de l'actualité de la COP 26.
Ben oui, parce que au moment où on enregistre cette émission, alors au moment où vous pouvez l'entendre, c'est déjà fini, mais la COP26 se tient à Glasgow pour trouver, peut-être, on ne sait pas, vous saurez au moment d'écouter l'émission, un nouvel accord international dans la lutte contre le changement climatique. Alors, de son côté, Unis pour le Climat prépare la marche du samedi 6 novembre, où c'est un appel national, même international, pour cette marche pour le climat. Et la justice sociale, il me semble qu'il y a les deux.
Pour nous, les deux vont ensemble, hein, même pour... Le président Macron, quand il avait fait la conférence citoyenne pour le climat, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les gens qui étaient tirés au sort. Il avait demandé de répondre aux enjeux climatiques dans une perspective de justice sociale. Puis on le voit au moment des gilets jaunes. C'est-à-dire que si on fait des mesures écologiques, mais qu'en même temps la population, parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement, elle le prend, elle adhère pas. Il faut des mesures qui soient populaires, où la population adhère à ces solutions pour qu'on puisse tous bifurquer ensemble.
Alors, une marche comme ça, voilà, y aura des slogans, il y aura des pancartes, il y a déjà des tracts qui sont distribués pour solliciter les gens pour qu'ils viennent à cette marche. Et puis, l'idée, c'est de faire passer un message. Alors, il y aura sûrement plus. Je parle à tous les temps, mais bref, on sait de quelle marche on parle. Plein de messages durant cette marche. Est-ce qu'on pourrait essayer de résumer un peu l'objectif vis-à-vis notamment des pays qui sont en train de négocier à la COP26?
Le message, il est clair. Il faut répondre aux enjeux climatiques. Il y a des rapports du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fait des rapports régulièrement. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent que d'ici 2030, il faudrait diminuer les émissions de 60%, 59% au niveau mondial, c'est-à-dire quasiment 10% par an. Donc nous, on demande juste de répondre aux enjeux climatiques. Bien sûr, dans la manière de répondre, il y a plein de débats et on agit avec plein d'associations et de syndicats aussi différents. Par exemple, il y en a des associations de développement du vélo, il y a le collectif Vélorussion, il y a la question de l'alimentation, il y a la L214, il y a le syndicat de la Confédération paysanne qui est là, donc pour une agriculture plutôt paysanne, etc. Donc des fois, il y a des petites contradictions entre nos différents intervenants, mais voilà, il y a plein de choses à mettre en débat. Donc nous, on demande ça. Et puis dans un esprit aussi de justice, de solidarité internationale, parce que les États, à la dernière COP, s'étaient engagés à donner, il me semble, 100 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, pour qu'ils puissent avoir les moyens de répondre aux enjeux. Mais ils ont donné seulement que 80 milliards, et je crois que c'est 75%, c'est sous forme d'emprunts remboursés, etc. Donc ça ne répond pas du tout... pour que ces pays puissent aussi avoir les mêmes moyens, même là on devrait parler de lever les brevets sur les technologies dites renouvelables, tout ce qui est efficacité énergétique, etc., pour qu'il y ait un transfert de technologies qui se fasse pour que tout le monde puisse équitablement répondre aux enjeux climatiques.
Et un petit pronostic donc, qui se vérifiera ou pas au moment de l'écoute de l'émission, c'est cette COP26 succès ou pas?
Moi j'ai envie de dire... Il faut peser, en science mobiliste, c'est toujours pour peser sur les débats. Comme je le disais tout à l'heure, les mobilisations avant ont obligé l'Union européenne, au Parlement européen, d'augmenter les objectifs à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on voit bien que là, vous imaginez, parce que je parlais de 60%, je me rappelle l'ancienne COP, pour un pays comme la France, c'était 63% de baisse d'émissions d'ici 2030 en moins de 10 ans. Et donc on imagine bien que derrière, il y a 30% par exemple, c'est les transports, il y a une grosse partie, c'est l'alimentation, etc. On voit qu'il y a des secteurs. Derrière, on sait qu'il y a des enjeux financiers qui sont très importants. C'est pas que je leur fais pas confiance, mais j'ai du mal à imaginer qu'avec les dirigeants actuels, qu'ils aillent dans le sens d'une réponse qui répond vraiment aux objectifs, sachant que derrière, il y a des vrais intérêts de pétroliers, de secteurs automobiles très puissants, des formes de lobbying qui sont très importantes, et il n'y a pas d'autre solution que pour nous que de les faire reculer, d'être très très nombreux. Ça va être une question de rapport de force. Là, petit à petit, les gens, il y a une vraie prise de conscience qui est là. Nous, on ne souhaite que cette prise de conscience, elle augmente et que les gens s'impliquent dans différents cadres collectifs militants, parce qu'il y a plein de manières de s'engager, mais il y a plein de combats, je pourrais en parler tout à l'heure, de combats très différents sur Caen, par exemple. Mais nous, on aspire à ce que ça se diffuse et qu'on soit de plus en plus nombreux à chaque marche.
Le rapport de force, justement, tu le disais, il y avait ces, on va dire les gros bonnets d'un côté et puis les citoyens de l'autre. Aujourd'hui, on entend parler encore de croissance et c'est assez dissonant par rapport aux propos qui peuvent être annoncés à la COP26. Du coup, c'est quoi les leviers que nous, on peut avoir, justement, nous, citoyens ?
Oui, alors tout de suite, on pense à nous, citoyens, on pense aux actions individuelles. Hein, ou alors aux choses un peu de pratiques alternatives, les AMAP, etc. Mais même ce genre de choses, il y a eu un cabinet qui s'appelle Carbon 4 qui expliquait que même un individu héroïque, qui ne prendrait pas l'avion, qui roulerait tout le temps à vélo, etc., il pourrait faire que 25% des marges de manœuvre. Donc en fait, ça, c'est très bien. Ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience, qu'on voit qu'il y a des gens qui font attention à leur alimentation, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de toutes ces problématiques. Mais on voit bien que les 75% autres, derrière, il faut établir un rapport de force. Alors, nous, on propose la marche. Il y a Extinction Rebellion, par exemple, qui propose des actions de désobéissance. Il y a des formes d'action juridique. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des actions même de « là, je suis ici chez vous », c'est pour amener le débat, donc des changements culturels, etc., pour faire avancer les débats d'idées. Donc, il faut essayer d'agir sur tous les leviers. Puis, après, bien sûr, dans les marches pour le climat, il y a une diversité politique. Et donc, la manière dont on peut y répondre... Très précisément, nous on reste ouvert au niveau de la marche pour le climat, mais on imagine bien que à gauche, etc., il peut y avoir différentes réponses à ces enjeux climatiques, ou même il y a même des gens qui s'abstiennent parce que voilà, il y a aussi ce rapport-là et qui pensent que c'est vraiment un rapport de force et que c'est une démocratie par en bas qui doit bouger les choses. Nous, on est là pour dire il faut se mobiliser, même ça peut passer par une grève. Il y a des pays, en Suisse par exemple, ils veulent qu'il y ait des formes de grève pour le climat, donc avec des secteurs professionnels. On agit aussi, nous, avec les syndicats. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la population, des salariés, etc., pour qu'il y ait un vrai blocage de l'économie. Les moments historiques où on a pu gagner des choses, c'est qu'en face, ils préféraient lâcher des augmentations de salaire, des congés payés, etc., parce qu'ils avaient plus à perdre à ne pas lâcher qu'à lâcher des choses. Donc nous, on se dit, dans le cadre actuel, c'est là-dessus qu'on parie. Des choses qui ont déjà marché historiquement, bien sûr, pour que ça marche, il faudrait être peut-être 10 fois plus nombreux que ce qu'on était avant. Imaginez des grèves, un blocage tel qu'une telle prise de conscience que les gens au pouvoir n'aient d'autre choix que de répondre aux enjeux.
Justement, il y a un enjeu au niveau de, tu le disais, de faire nombre, d'être dans un rapport de force. Et puis voilà, plus il y a de monde dans la rue, plus ça donne d'impact à ces mobilisations. Qui est-ce qu'on retrouve actuellement dans ces marches? C'est vraiment des gens de tous horizons ou ça va rester quand même un noyau dur, militant, archi-convaincu sur la question?
C'est assez divers. Hein. Vraiment, là, par exemple, quand on fait l'Assemblée sur le climat, il y a des gens de la CGT qui sont là, même des CGT de l'énergie, par exemple, avec des gens qui sont en études nucléaires. Il y a la Confédération Paysanne qui est là, qui défend aussi l'élevage. Il y a la L214 qui, elle, est contre l'élevage, etc., veut en sortir. Il y a des collectifs pour le vélo qui signent la marche. On a fait aussi, au moment, en 2018, fin 2018, début 2019, il y a eu le moment des Gilets jaunes et on a fait des convergences sur Caen avec eux, où même eux-mêmes disaient nous, notre problème, on n'est pas contre le climat, mais on veut des mesures qui prennent en compte nos propres intérêts. Et il y a eu une convergence, c'était le 17 mars 2019, où les deux cortèges se sont rejoints à Caen. C'était vraiment impressionnant à voir. On était 5-6 000 ensemble. Près du château, avec du coup des gens habillés en vert, des gens habillés en jaune, etc. Il y avait les différentes couleurs, il y avait les syndicats qui avaient leur chasuble rouge. Donc il y avait une vraie image symbolique de différents courants qui étaient là, et une vraie diversité des catégories populaires, et puis ce qu'on appelle des gens plus urbains, entre guillemets, qu'on retrouve dans l'écologie, qui ont des pratiques différentes, etc., de culturelles, de vie.
Et Qu'est-ce que vous imaginez au sein du collectif et des différents acteurs mobilisés pour peut-être aller encore plus loin et mobiliser encore plus largement, sur une mobilisation grand public, on pourrait dire?
Nous, on essaye, c'est toujours les mêmes leviers qu'on essaie de mettre en place. Hein. Des cinémas, on fait des partenaires là, pendant tout le programme qu'on a fait au mois de novembre, avec des cinémas, par exemple, pour faire des diffusions de films, des débats après, dans des assemblées de quartier, des réunions de quartier. Donc, dès qu'il y a des MJC, etc., qui nous proposent, l'idée, c'est qu'on arrive à diffuser et que ça ne reste pas dans une sorte d'entre-soi militant, que les gens aussi, entre différentes cultures, entre des gens syndiqués, CGT, etc., qui, c'est pas leur culture, l'écologie, mais là, ils n'ont pas le choix. Ils eux-mêmes sentent qu'ils sont obligés de s'y mettre parce que s'ils n'apportent pas des réponses aux questions climatiques, c'est pour eux le camp d'en face, donc une écologie libérale qui ne va pas dans leur sens, qui est appliquée. Donc petit à petit, eux-mêmes sont, essayent de trouver des réponses, en parlent, etc. Donc nous, on essaie de parler à tout le monde. On se dit, voilà, il y a un gouvernement qui est en place. Comment est-ce qu'on peut faire un front large pour que tout le monde ait intérêt et conteste la politique climatique qui ne répond pas aux enjeux? Comment est-ce qu'on peut faire un front large et qu'on respecte les stratégies chacun? Il y a des stratégies de désobéissance, là, par rapport à Amazon, etc. Il y a des choses qui se mettent en place. Pendant le mois de novembre, il y a plein d'actions. Moi, j'ai eu des échos comme quoi il y allait y avoir des actions de désobéissance pendant tout le mois de novembre, etc., avec Extinction Rebellion. Donc, il y a plein de leviers à mettre en place, quoi. Par exemple, je parlais des actions juridiques. Il y a un entrepôt Amazon qui veut se construire à Moult. Il y a des actions juridiques qui sont faites là-dessus. Place de la République, pareil, il y a des actions juridiques. Vous savez qu'il y a un centre commercial qui se met en place. Et donc, il y a diverses actions qui se mettent en place contre ça.
Et on parle des actions. On a parlé aussi un peu de tout le programme du mois de novembre, parce que Unis pour le Climat, avec les différentes associations, syndicats, rassemblés au sein d'une assemblée pour le climat à Caen, autour de cette COP26, ont décidé de tout un mois de programmation, on pourrait dire, sans rentrer dans le détail. Est-ce qu'on peut résumer tout ce qui a été fait et va être fait à destination justement du grand public?
Alors, il y a plein de débats sur différentes thématiques, parce qu'on aborde le climat, et donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Le climat, ça aborde la question de l'énergie, quel type d'énergie, la question de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique. Donc, il y a un débat qui va se dérouler là-dessus. Il y a la question de la biodiversité. La biodiversité, comme ça, le climat, c'est assez simple, mais la biodiversité, comment y répondre? Et on fait le lien en plus entre la biodiversité et la question du Covid, parce qu'on sait que le Covid est sans doute lié à des questions de zoonose, et on sait que la question de la biodiversité est vraiment liée, donc ça permet de relier différentes questions écologiques. Il y a la question des transports. Donc on sait qu'il y a, par exemple, l'allongement de la piste de Carpiquet qui est mis en place. Donc il y a un collectif qui est là-bas, et donc on les fait se rencontrer avec des cheminots, par exemple, pour la question du rail, comment trouver des alternatives à l'avion, etc. Il y a la marche pour le climat. Il y a une Vélorussion qui va avoir lieu, qui a lieu, je parle au passé maintenant, le 13 novembre. Donc, une manifestation, une parade à vélo. Donc on fait différents thèmes. Il y a une rencontre dans des quartiers populaires. Il y en a une avec Fatima Ouassak, qui fait partie du Front des Maires pour la justice sociale, qui vient de la région parisienne, parce que c'est vendredi 19, de 14h à 16h, j'en profite, je peux un peu à la centrifugeuse, donc il y a un débat avec elle, etc. Et donc on fait différentes tables rondes avec des thématiques. Voilà.
Donc plein de sujets mis sur la table, et puis pour tous les goûts, tous les publics. Une question aussi dans ces mobilisations, ça peut être un sujet des fois qui plombe le moral quand on y pense. C'est très, très métaphysique. On parle d'ailleurs des fois d'éco-anxiété. Comment on fait pour rendre tout ça positif et joyeux au niveau collectif aussi? On parlait au niveau individuel, d'être dans un optimisme de la volonté, mais au niveau collectif, comment on passe à quelque chose, à une certaine joie militante?
Oui, vous savez tous, il y a le jeu des pancartes, où il y a des slogans humoristiques qui sont mis sur les pancartes. Là, il y aura une batucada normalement au moment de la marche, donc il y a des choses comme ça qui sont assez festives. Et militer, c'est dans un cadre collectif. En fait, c'est vrai que quand on voit les choses comme ça climatiques et qu'on fait que rester dans son coin, ça peut que rendre pessimiste, parce que aussi on voit des gens autour de soi qui ne sont pas forcément concernés. Mais le fait d'être dans un collectif, on se sent beaucoup plus utile. On voit qu'il y a une énergie qui est là, il y a des liens d'amitié bien sûr qui sont, on est content, on voit qu'on partage les mêmes valeurs. Et ça, il y a une force d'entraînement quand on fait des actions, qu'on voit l'impact que ça a au niveau médiatique, qu'on a réussi à mettre un thème dans le débat. Vous savez qu'en ce moment, il y a des candidats qui veulent avancer leur thème, etc. Nous, on se dit, notre thème à nous, pour faire avancer, il y a des élections, même dans les débats publics, etc. Qu'on en parle, qu'il y ait la marche pour le climat, ça nous permet de mettre ça dans l'actualité. Donc pour nous, c'est des petites victoires, et c'est là-dessus qu'on se base pour avancer, quoi. C'est un levier important.
Alors justement, tu parlais des élections. Est-ce que vous avez ciblé aussi, en termes de temporalité, ça va se passer au mois d'avril, des grosses actions juste avant pour sensibiliser, la population à aller voter ou mettre des débats sur la table tout simplement?
Alors on n'en est pas à ce degré de planification pour avril. Nous, le moment des élections, c'est toujours des moments importants, parce qu'on peut parler. Alors par exemple, aux dernières élections, il y avait en même temps la loi pour le climat qui était mise en place au Parlement. Donc en fait, on en a parlé, etc. Mais bien sûr, on essaye aussi de garder une autonomie par rapport aux politiques, sachant que dans nos collectifs, il y a différentes inclinations politiques très différentes. Donc, Nous, on n'appelle surtout pas à voter pour les gens qui font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Après, les gens, on pense que les gens sont suffisamment intelligents, entre guillemets, pour choisir eux-mêmes ce pour quoi ils veulent voter. Mais c'est vrai que ces moments-là, c'est des moments importants, quoi. Par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à leurs promesses passées, pour leur mettre face à leurs responsabilités. Donc, c'est important de profiter des moments des élections, toujours, pour amener... mais l'écologie le fait, mais toutes les thématiques importantes sont à prendre en compte au moment des élections, quoi.
Et du coup, si à l'occasion de cette année présidentielle, des gens souhaitent rejoindre la mobilisation autour du climat, à quand, à quelle porte on peut toquer ? Est-ce que on envoie un message sur la page Facebook d'Unis pour le climat ? Est-ce qu'on fait son choix parmi la myriade d'associations et d'acteurs avec qui vous vous mobilisez sur ces sujets ?
Alors nous, Unis pour le climat, la porte sera grande ouverte. Hein. Donc il y a la page Facebook dont tu as parlé, mais on a aussi un mail. C'est unispourleclimat.camp@gmail.com. Mais chacun en fonction de ses affinités, en fonction de son degré d'engagement, de son rapport à ce qu'il a envie de faire, il sera bienvenu dans les différents collectifs, quoi. Je pense que le mieux, c'est de partir de sa propre sensibilité. C'est là où les gens vont être le plus efficaces, quoi. Ce vers quoi ils ont envie de tendre, sachant qu'il faut être partout. Je pense que si déjà, il faudrait être nombreux partout. Donc, il n'y a pas d'endroit sur compte au niveau associatif qui dit oh non, là, on est trop nombreux, venez pas. Voilà.
Et ça me fait penser, ça sera peut-être notre mot de la fin, une interview que j'ai entendue récemment où une activiste du climat disait bah, commencez pour agir par faire ce qui vous fait plaisir. Et du coup, voilà. Choisir ses combats, c'est aussi être dans le plaisir, être dans la joie, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça aide quand même beaucoup à avancer.
Tout à fait.
Merci Frédéric, je rappelle membre actif du collectif Unis pour le climat Caen, d'avoir passé un moment avec nous dans Bonjour Turbine.
Merci à vous de nous avoir accueillis, puis c'était très intéressant, merci.
Merci beaucoup, alors tu peux même rester autour de la table, on va passer un petit jeu avec Analou. Il y a de grandes chances qu'on se fasse battre à plat de couture. On va voir.
Peut-être me faire coller. Hein, tout le temps assidu à l'actualité, les chiffres, etc. Donc, j'en ai sorti quelques-uns comme ça parce que j'ai regardé la presse avant. Mais,
Ah, c'est pour ça, t'étais super bien préparé en fait.
Ça fait un moment que je suis sur le circuit, donc j'ai des vieux chiffres, etc. Mais des fois, j'aime pas trop me coller à l'actualité, j'aime bien me détacher un petit peu aussi, c'est important.
Ouais, des petits moments de respiration, ça fait pas de mal. Alors pour le coup, là, pas de respiration, on enchaîne direct avec Analou pour son petit jeu qu'elle vient de nous préparer. Et Pierre, si tu veux t'asseoir à côté pour participer, tu es le bienvenu.
Et oui, bonjour à tous. Effectivement, il faut savoir se décrocher de l'actualité. Je l'ai complètement constaté en essayant de préparer ce petit quiz sur l'environnement. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, j'étais partante pour faire un jeu avec nos invités. Mais au vu du sujet de cette émission, j'ai été un petit peu en panne d'inspiration. Car c'est un sujet pas fun du tout. Et que j'avais pas envie de partir en mode, d'après les études, de combien de pourcentage ont diminué les espèces de vertébrés dans les 30 dernières années ? 50, 60 ou 70%, pas du tout fun et carrément déprimant. C'est donc pour cela que j'ai décidé de m'intéresser un petit peu à qu'est-ce qui se passait dans la COP26 en ce moment, pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir. J'ai donc regardé, parce que d'habitude je suis hyper positive, hein, je suis quand même un peu en mode feel good et tout, mais bon là, voilà, bref. Et donc du coup, pour avoir un petit peu d'espoir, j'ai donc regardé l'actualité et voilà quels ont été les résultats de mes toutes premières recherches. Vraiment, je déconne pas, quand j'ai tapé COP26, j'étais dans l'onglet actualité. Vraiment, dans l'ordre, tous les articles que j'ai vus, c'était COP26, la Chine annonce augmente sa production de charbon. Une ministre israélienne en fauteuil roulant accède finalement aux conférences après 2 heures d'attente sans accès handicapé. Xi Jinping estime que Joe Biden a fait une grave erreur. Le Kremlin rejette les critiques de Joe Biden et assure prendre au sérieux le réchauffement climatique. Joe Biden copie-colle le discours d'Obama. Joe Biden s'endort en plein discours. Emmanuel Macron appelé le facilitateur de climat. Oui, lol. Greta Thunberg, les 30 années de bla 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 des dirigeants du monde. Bon, comme vous pouvez le constater, on apprend pas des choses très intéressantes, mais bon, on s'y attendait, et puis bien évidemment, quand bien même on apprendrait des choses, on sait très bien que de toute façon, ça mènera à rien. C'est pourquoi j'ai été obligée de finir par faire quand même un quiz. Et voilà. Parce que voilà. Et puis après ça, je vous propose une petite soirée lecture du rapport du GIEC et prise d'antidépresseur. Allez, c'est parti.
Cool.
Youhou.
Au moins, ton intro est génial. C'est déjà ça.
C'est le seul truc bien de ma chronique. Super. Alors, questionnaire, on y va. Quel gaz a l'effet de serre le plus puissant ? Vapeur d'eau, méthane, CO2 ou les pets de vache ?
Alors, ça dépend sur le nombre d'années, en fait. C'est très compliqué comme question. Mais alors, le méthane est plus important que le CO2. Mais peut-être la vapeur d'eau, mais elle reste très peu de temps dans l'atmosphère.
Et bien, effectivement, c'est la vapeur d'eau. Voilà, donc c'est 60%.
Bravo.
Mais effet court, car limité dans le temps.
Et j'en profite pour glisser une petite info qui figure d'ailleurs dans la newsletter petit format. J'ai réussi à la replacer.
Bravo.
Il y a un gaz à effet de serre très puissant aussi, le SF6 hexafluorure de soufre,
okay.
Qui est émis notamment par des centrales nucléaires. Et la centrale de Flamanville, qui n'est même pas encore en exercice, a déjà dépassé le seuil annuel de 100 kg d'émissions d'hexafluorure de sodium. De soufre. Pardon.
Super, une super bonne nouvelle pour notre petit after. Voilà. Bref. Du coup, deuxième question. Où va la majorité du CO2 émis par l'homme ? Dans l'atmosphère, dans l'océan, dans la biomasse ou sous la perruque de Donald Trump ?
Dans l'océan, c'est 2/3, je crois, un truc comme ça.
Et ben non, c'est dans l'atmosphère. Voilà. Ah bon.
C'est
et
dans
bon,
l'atmosphère.
Désolé. Par contre, l'océan est le poumon de la planète. Je voulais faire une question dessus, mais. Contrairement aux forêts, voilà, de ce qu'on pense. Bref, du coup, en hiver et à quantité égale, lequel de ces aliments émet le plus de CO2 ? La banane de Martinique, la tomate d'Espagne, le rutabaga picard ou le café colombien ?
Le café colombien.
La banane ?
Bah, ça dépend, c'est au kilo.
Ah.
Désolé Pierre, t'avais pas le micro. Qui a dit quoi ?
Moi, j'ai dit la tomate.
Toi, tu dis la tomate, ouais. Et vous dites quoi ?
Et Raphaël dit la banane.
Non, il avait dit...
Moi, j'ai dit le café.
Ouais, moi, je serais peut-être plutôt sur le café, mais ça dépend si on parle au kilo et tout. Faut voir comment.
D'accord,
le...
ok. Tout le monde s'en fout du rutabaga picard, on dirait.
Apparemment, oui. Ça paraît local. C'est peut-être le piège, en fait.
Eh bah, ben super. Bah, c'est la tomate. Voilà, parce que au final, c'est plus de CO2 en transport que... c'est plus de CO2 de la produire en hiver que le transport des autres... fruits et légumes.
Ils bossent en restauration, c'est normal qu'il y ait eu la réponse.
Bah oui, hein, voilà. C'est pour ça. Hein.
On en voit toute l'année, donc je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose quand même.
C'est bizarre ça.
On en voit un peu trop quand même.
Produit de saison, entre guillemets.
Voilà. C'est ça. D'ailleurs, petite anecdote au milieu de ce quiz, une journée à Pékin est équivalent à 21 cigarettes. Youhou. Alors, on continue.
Alors. Ah, j'adore cette petite info-là, comme ça, c'est distillé.
Toujours comme ça, parce que demain, on avait prévu d'aller à Pékin tous ensemble. Alors bon, je le dis. Bref, alors du coup, aux États-Unis, la qualité de l'air est-elle meilleure ou moins bonne qu'il y a 20 ans ? Soit meilleure, soit moins bonne, soit pareil, soit il n'y a plus d'air aux USA.
Il n'y a plus d'air aux USA.
C'est du coca à la place.
Moi, je dirais meilleur parce qu'ils ont beaucoup délocalisé. Du coup, ils ont externalisé leur pollution ailleurs.
Oh, bravo, bravo.
J'allais dire pareil.
Chaud patate. Bah, il y a eu beaucoup d'amendements apportés dans la loi sur l'air depuis les années 90. Donc, au final, elle est meilleure. Voilà. Bref, du coup, quand le GIEC a-t-il assuré que le réchauffement climatique était d'origine humaine ? En 1988, dès sa création. En 2007, en s'appuyant sur les multiplications des phénomènes climatiques extrêmes. En 2014, en vue de la COP21, ou il y a 3 mois.
Dès sa création ?
Ouais, en 88, ouais. C'est ça ?
Il y a peut-être eu une petite preuve scientifique en 2007 où on était certain. C'est ça, non ? Il n'y avait pas un truc...
Ouais, il y a pas un truc où Jacques Chirac il a parlé et tout, il a dit ouh.
Ah ça c'est les années 90.
C'est années 90
ouais.
Ça. Ah,
ouais. La maison brûle et nous regardons ailleurs.
Voilà.
Ça c'était 92 je crois le 92. Sommet du climat de Rio ou Johannesburg.
Johannesburg.
Eh ben 88 alors, ça confirme bien.
Donc 88 et eh ben ouais. Non, c'était en fait en réalité 2007 où ils étaient sûrs à 90%, mais en réalité en fait c'est il y a 3 mois avec le rapport du GIEC où là ils sont sûrs à 100%. Voilà.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Ah, on est sûr que c'est nous.
C'est une question de degré de certitude, d'accord.
Voilà. Maintenant, ils vont peut-être agir. Voilà.
Bah voilà.
Mais
voilà.
Sinon, officiellement, on peut dire que c'est 2007, parce que 90%, on se dit, ok,
il semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Ouais.
Et 88, ça devait être 80%. Ils gagnent 10% tous les 10 ans.
C'est ça.
Ils vont être sûrs dans 10 ans à 120%.
Ok. J'ai un moment de...
Analou a regardé ses fiches. Mais non, mais 120%, ça fait beaucoup trop. Je... Bon, est-ce que tu as d'autres questions pour
oui,
nous?
Oui, oui, j'ai d'autres questions. Alors, quelle industrie émet le plus de CO2? Le textile, la viande, l'automobile ou les magasins farcés à trappe? J'étais vraiment pas inspiré.
Ah, t'as mis du fun.
Le textile.
Alors oui,
textile, c'est sale.
On entend beaucoup parler de lui, mais les transports, c'est 30% quasiment. Donc, alors, je sais pas si on parle que des voitures, l'automobile, que les voitures.
Ouais mais après,
non, le... ouais, ouais.
Après ouais, les voitures, il y a la fabrication et ensuite l'usage. Donc, c'est peut-être piège.
Moi, je dirais textile.
Ouais. Et en fait, non, putain, bah, bien joué de me dire, j'ai mis l'automobile, mais en fait, c'est les transports que je voulais mettre.
Ah.
Ça change tout.
Voilà, parce que transport, ça inclut l'avion.
On
alors.
Corrige le quiz
je
en direct.
Je vous redis les choix de réponse. Vous aviez oublié les textiles, la viande, les transports, les magasins farcés à trappe, au cas où.
Bah, ah, la viande. Parce que la viande, c'est 18%. L'agriculture, c'est 18% environ.
Ouais, mais là, les transports, c'est 30%, on a dit.
Ouais.
Donc, ouais. Les transports, allez, on va dire les transports. On dit les transports.
Eh ben non, les coco, c'est la viande. Hein, quand même. Et puis, Tomate était là à l'émission de mai dernier où je disais que c'était la viande, hein, justement. Donc voilà. 14%, hein, juste. Voilà.
Ouais, mais dans ces 14%, il y a le transport de la viande qui sont comptés dedans,
en
plus.
Oui, et puis en plus, il y a toutes les cultures. En gros, pour nourrir les animaux.
C'est un vieux débat. C'est comment est-ce qu'on fait de la viande de manière plus locale pour encore diminuer l'empreinte.
C'est pas possible. Voilà.
Ouais, c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas eu un accord avec l'Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises, dernièrement. Avec Macron.
Oui, le TAFTA, non?
Le TAFTA, voilà, j'avais oublié.
Il y a l'affaire avec le Canada, il y en a le Mercosur et tout. Il y a plein de traités de libre-échange qui fait que on baisse nos normes. Voilà.
Et ben, c'est à nous de consommateurs d'agir. Là, pour le coup, on peut vraiment faire quelque chose, hein. Non?
Ah bah, si, tout à fait. À un moment, si tout le monde boycotte un produit ou une marque, forcément, c'est la loi du marché. Donc là, c'est un levier d'action qui marche.
Voilà.
Que je disais, et dire que si on arrêtait d'en acheter, ils arrêteraient d'en vendre.
Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
Comme ça.
Et donc, du coup, vous voulez encore une, deux ou trois questions ou zéro?
Allez, vu le temps qui nous est imparti, il te reste encore une question.
Alors, en matière de transport, quelle action aurait le plus d'impact? Lancer un grand plan pour favoriser les vélos et les taxis, améliorer l'efficience des avions, construire un réseau global de trains à grande vitesse ou se balader tous à cheval? Voilà.
Alors, c'est pas la dernière parce que ça rentrait en compétition les chevaux avec l'alimentation. Il y avait un truc comme ça par rapport au bois début 1900.
Oh punaise, je m'attendais pas du tout.
Le ferroviaire. Ferroviaire, c'est pas très. Ça peut ne
là,
pas
si
être...
c'est train à grande vitesse, elle a parlé de TGV, donc ça pose des débats.
Paye.
T'as dit TGV.
Tu vas pas à Moscou en TGV. Voilà.
Donc,
sibérien, bien sûr.
Ouais.
Tu peux répéter les options?
Ouais, moi aussi.
Alors, il y avait du coup un grand plan pour favoriser les vélos et les taxis.
Ah bah oui.
Améliorer l'efficience des avions ou construire un réseau global de trains à grande vitesse ou se balader à cheval.
Moi, je propose qu'on fasse tout sauf le dernier. Voilà.
Ouais.
Mais qu'on puisse prendre son vélo dans le train.
Ça, c'est de la triche, on peut pas faire tout en même temps, du coup.
Hein.
Sinon, c'est trop facile.
Mais après, le vélo, je veux bien, mais pourquoi les taxis?
C'est comme ça.
Les pouces-pouces
pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas faire du vélo.
Bah oui,
voilà, c'est ça.
Merci, voilà quelqu'un d'inclusif.
Réponse 1. Alors.
Vélo-taxi.
Bah non, c'est la 2, c'est améliorer l'efficience des avions.
Pardon?
Voilà. C'est
mais on peut arrêter de prendre l'avion sinon.
Ouais,
ah bah,
hein.
Oui, clairement, mais je sais pas, c'était à échelle globale, c'est une info que j'ai vue sur.
Ouais, c'est le lobbying
sur le site de
l'aviateur, ça.
Ouais, c'est sur le site de Farce et Attrape, non? On y revient. Hein.
Et oui, voilà. C'était mon super quiz, allez.
Eh bah, c'était cool, on s'est trop éclaté, non? Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? C'était bien. Hein.
Moi, je vote pour renouveler le super quiz d'Analou.
Ouais.
Vous êtes vraiment pas obligé.
Carrément, moi aussi.
Je reviendrai exprès pour le quiz.
Allez, tu vois?
Ouais.
Et toi, Pierre, t'as kiffé?
Mais moi j'ai adoré.
Ah.
C'était trop trop bien.
Bon bah tu vois, alors 100% de réussite pour toi, Analou.
Bah écoute, grand bien vous fasse. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté en tout cas, mais je vous jure, en vrai, j'ai le smile sur l'environnement et tout.
Et bah au plaisir.
Comme il a dit quoi.
Tu nous as mis en joie, merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec notre cher Pierre qui va nous proposer une musique.
Je vous ai trouvé quelque chose. Vraiment, j'espère que vous êtes prêts parce que moi ça m'a donné les frissons. Donc on va terminer cette rubrique musicale avec un dernier artiste slammer, Abdelmalik, avec son titre « Noce à Grenelle ».
Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie? N'étions-nous pas, j'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, toi et moi, sans savoir pourquoi. Je parle pour moi, tu as toujours su pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre? Nous étions supposés être faits l'un par l'autre, du nous sommes, par égoïsme, j'ai dit je suis. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'était-ce pas ici qu'avaient fleuri ces cœurs? N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs? Pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre.
Bon, je casse un peu l'ambiance si on compare avec les musiques qui ont été diffusées avant, mais c'est tellement bon et fort. Et les bonnes choses, il faut les mettre en avant. C'est pour cela que je vous propose cette musique donc d'Abdel Malik, Noce à Grenelle. Provenant de son album Dante, sorti en 2008, le slammer Abdel Malik m'a scotché vraiment devant sa poésie qui nous parle de l'amour qu'il a pour la planète. Et toutes ses inspirations lui sont arrivées depuis qu'il s'est converti au cours de son adolescence à l'islam soufi. Donc c'est un mouvement ésotérique issu de l'islam dont les principes reposent sur la recherche de l'illumination, la sagesse ultime et l'amour de Dieu en son fort intérieur. Abdel Malik milite depuis pour la paix et pour un vivre ensemble. Son style musical mêle rap, jazz, slam au ton volontiers sérieux. Et on l'entend vraiment ce ton volontiers sérieux avec pas beaucoup de mots en fait, mais vraiment des mots puissants, des mots forts, des mots posés. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et ces chansons cherchent à mettre en valeur un texte fort, comme je viens de vous le dire, de sens et d'émotion, chanté ou slamé, accompagné d'une musique qui doit appuyer l'intensité des paroles. Et un texte assez dur, mais d'une très grande richesse, d'une très grande émotion, avec toujours un message fort. Est-ce que vous avez des réactions? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce titre?
Eh bien, ça suscite l'émotion, on va pas se mentir. Non, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est toujours une voix qui attrape l'oreille tout de suite, hein, j'ai l'impression. Enfin, dès les premières secondes, on est happé par son discours. Alors, je sais pas si c'est le poids de sa voix ou le poids de ses mots qui fait qu'on rentre dedans, mais c'était très agréable.
Ouais, c'est ça, c'est un tout que j'ai trouvé vraiment, cette façon, vraiment cette poésie. Parce que j'écoute un petit peu slam, mon grand corps malade, comme on connaît bien, et vraiment j'ai trouvé une différence, donc, ce qui est normal entre tous les artistes. Mais là, vraiment, j'ai été happé dès les premiers mots, avec ce magnifique piano qui est derrière. J'ai pas trouvé ça triste, j'ai pas trouvé ça joyeux. J'ai trouvé ça entre les deux, en fait. Et je vous invite toutes et tous à écouter vraiment ses albums. Voilà.
Ok. Et alors, donc, cette musique était disponible sur quel album?
Là, c'était Dante. Alors, Dante, je ne sais pas comment on le prononce. D-A-N-T-E.
Donc je suppose Dante.
Ok, bah on va dire Dante ou Dante. Voilà. En tout cas, c'était encore un très bon choix musical, Pierre. Nous te remercions.
Merci beaucoup.
Et alors, nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant ça, il nous reste les bons conseils d'Alain Breton dans une nouvelle rubrique. C'est qui ?
C'est quoi ?
C'est où ?
C'est quand ?
Eh, il n'y a pas de jingle, ça viendra.
On s'attendait c'est l'agenda des arts, par c'est Alain Breton.
Voilà, c'est ça, exactement. On s'attendait à un jingle. Il y en aura un, Alain, il y en aura un pour la prochaine émission. Alors, nous te laissons la parole pour cet agenda culturel.
Voilà. Alors, donc, jusqu'au 21 novembre, salle des abbesses de l'abbaye aux Dames à Caen, dans le cadre du festival Interstice 15, tous les jours de 14h à 18h, vous pouvez voir Supraorganisme de Justice Emma. Supraorganisme est une installation réactive composée de sculptures en verre robotisées, animées par une intelligence artificielle, élaborées à partir de données collectées dans une communauté d'abeilles. Puis, toujours dans le cadre de Interstice 15, à partir du 17-12 jusqu'au 14 janvier 2022, Frame Perspective de Olivier Rasti à l'hôtel de ville de Caen. Alors, dans un tout autre domaine, André Marty, peintre-sculpteur installé au village de la poterie du Ménil de Bavan, expose jusque fin décembre à la mairie de Louvigny. C'est beau, très poétique, des rouges et des bleus somptueux. Et vous pouvez aller dans son atelier au village de Bavan, où, en plus de le rencontrer, vous verrez certaines de ses œuvres. Très différent encore, si vous aimez les Vikings, les dragons et la Normandie, allez découvrir Dragon Normand, créé par Thomas Le Sourd avec Gildas Le Chevretel et Florent Martin, sur dragonnormand.com, c'est gratuit. Le nord du royaume est le théâtre d'un nouveau genre d'invasion. Cela se passe au 9e siècle en Normandie viking. Chaque histoire se passe dans un endroit différent, Trouville-sur-Mer, Touques, Guibray, Beuvron-en-Auge, etc. C'est pour les petits, mais aussi pour les grands. Et pour terminer, découvrez deux artistes artisans d'art orfèvres du réemploi. D'abord à Cambremer, où se trouve son magasin-atelier, Véronique Chambaud. Elle crée des œuvres en papier mâché. Le résultat est bluffant, on croirait du métal. C'est poétique, magique, magnifique. N'hésitez pas à aller la voir sur sa page Facebook ou Instagram, entre autres. Ça vaut le déplacement. Enfin, pour finir, une sorte de chirurgien magicien qui opère lui aussi au village de la poterie du Ménil de Bavan. Dans la grande villa à gauche, en entrant dans le village, Monsieur Paul, rien à voir avec un célèbre assassin, vend des jouets anciens, des poupées, des peluches d'occasion. Donc, une vraie caverne d'Ali Baba, même si le regard des poupées qui semble vous observer est flippant. Il paraît d'ailleurs qu'il n'y a pas deux poupées qui ont les mêmes yeux. Et ben, quand vous rentrez dans son atelier magasin, là, ça fout les boules, honnêtement.
Oh, tu donnes envie d'y aller, en tout cas.
Non, mais il faut y aller parce que c'est la dernière chance pour vous de sauver votre jouet préféré. Monsieur Paul répare, recoue, remet en état les teddy bears, les pluches que l'on pensait tristement bons pour la poubelle, ou les poupées, elles aussi, au bord de la déchetterie. Ne jetez plus. Reprenez espoir, retrouvez vos vieilles compagnes ou vieux compagnons. Faites cesser les pleurs de vos petits chéris. Monsieur Paul va opérer et sauver ses doudous et autres complices muets.
Ça fait complètement sens avec le thème de l'émission aujourd'hui. On mettra en description de ce podcast tous les petits tuyaux que tu viens de nous donner, et notamment l'adresse de ce monsieur Paul. Alors,
c'est sur la route de Cabourg, avant la route de Bavan à droite, à côté de la Tuilerie, là, ça s'appelle le village des potiers.
Ok, eh bien on notera, on donnera l'info. Raphaël a l'air de connaître, il hausse des sourcils.
Non, mais je me disais que c'était très précis comme indication, c'est le genre de choses que je retiens jamais, même si on me le dit 30 secondes après.
Mais nos auditeurs et auditrices vont retenir. Merci beaucoup, Alain, pour tous ces conseils. Et justement, on va continuer avec cette idée d'agenda, d'actu, avec Analou qui va nous présenter les actus du WIP.
Et oui, alors encore moi, du coup, pour les actus du WIP. Et aujourd'hui, je fais un big up à Juliana qui a du coup écrit la chronique des actus du WIP. On a plein de beaux événements annoncés pour la période fin novembre-décembre et des événements bien différents. Le 20 novembre, sur toute la journée, l'association des amis de Jean Bosco fête ses 60 ans au WIP. Donc, ils vont présenter des activités et différents métiers. Il y aura aussi tout un tas d'animations, jeux pour enfants, concerts et à 16h, une conférence de Philippe Croison. Qui connaît Philippe Croison ?
Oui, on connaît Philippe Croison.
Oui, on connaît.
C'est celui qui a plus de bras, c'est ça ?
C'est ça.
Et qui nage sur des très longues distances.
Ouais, c'est ça, c'est exactement lui.
Mais me demandez pas, moi j'ai pas écrit la chronique. Je sais pas.
Mais genre.
Oui, oui, Philippe, croisons.
Je crois qu'Elon Musk l'a invité à aller dans l'espace.
Ah ouais.
Ouais, parce que genre il faisait une blague sur internet et tout et ouais.
Okay. Ah mais oui, mais attendez.
Il est si généreux c'était Elon Musk.
Eh ben oui, parce qu'en plus Juliana nous explique après qui est Philippe Croizon. Philippe Croizon, c'est un aventurier de l'extrême, un athlète de haut niveau et qui a réussi notamment la traversée de la Manche et à avoir relié les 5 continents à la nage. En bref, une journée enrichissante et conviviale.
Le 25 novembre.
Le WIP accueille Tendance Ouest qui organise une soirée musicale. 4 artistes seront au rendez-vous et vous les connaissez, c'est sûr. Trio, Nolwenn Leroy,
Gaëtan Roussel et ses phases.
Chacun des 4 artistes va faire entre 3 et 6 chansons et les places sont à gagner dans les médias de Tendance Ouest. Donc allez vite voir sur leur site internet pour jouer.
Et 2 jours plus tard, le 27 novembre...
On fait honneur aux racines de Nolwenn Leroy, justement parce que le WIP, en partenariat avec le Cercle Dansérienne, vous invite à venir danser pour un fest-noz. Alors, fest-noz, ça parle à tout le monde ?
Évidemment.
Ok.
Ah bah oui, bien sûr.
Oui, et bien, juste pour le petit point historique, du coup, le fest-noz a été inventé dans les années 50 en Vendée. Mais non, voyons, en Bretagne, ce que vous êtes crédules. Et ça a été inventé pour rappeler les moments festifs qu'il y avait à la fin des journées de travaux collectifs chez les paysans. Donc le 27 novembre, on invite 2 groupes de musique pour venir célébrer la Bretagne. Et oui Thomas, je sais que tu te demandes, et oui il y aura du cidre et des crêpes, mais le cidre sera normand parce qu'il ne faut pas déconner non plus.
Oui, je me posais la question. Merci beaucoup pour cette chronique, Analou. C'est assez conceptuel voilà, d'arriver devant sa chronique au moment de l'enregistrement radio. Voilà, bravo, tu t'en es sorti avec brio. Merci à toutes et toutes et toutes et tous. Je suis fatigué, voilà, on a enchaîné 2 heures d'enregistrement, on va pas se mentir. Et ben, merci Raphaël, merci Alain, merci à notre invité du jour, Frédéric Burnel. Merci à Pierre, merci à Analou. On va mettre en lien toutes les descriptions de tout ce dont on a parlé. Voilà, à très bientôt. Ciao.